Le journal Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. L'heure des comptes pour l'égalité femmes-hommes en matière de salaire, 8 mars, 15h40. Au-delà, les femmes travaillent gratuitement par rapport à leurs collègues masculins. Mobilisation à Paris, manifestation monstre en Espagne, nous serons à Madrid. Le sparadrap Benalla, cette fois collé au costume d'Ismaël Emelien, le stratège d'Emmanuel Macron qui quitte son poste dans moins d'un mois. Il a été entendu par l'IGPN au sujet de la vidéo sur les violences du 1er mai. Au sommaire également ce soir, un 5 barré d'un trait rouge dans les rues d'Alger, le pays mobilisé contre la candidature Bouteflika. L'un de ses opposants arrêté dans l'hôpital de Genève où il est soigné. L'aller-retour réussi de la capsule SpaceX dans l'espace, demain peut-être avec des astronautes à bord. Des pièces de l'Argentin copie à la filature de Mulhouse. Et au téléphone sonne Pierre.
La sécurité dans les prisons et la gestion des détenus radicalisés après l'agression cette semaine de deux gardiens, deux surveillants à Condé-sur-Sarthe. Le standard du téléphone sonne à votre disposition, 01 45 24 7000. Et puis le site de l'émission, franceinter.fr.
Il est donc 19h et depuis presque 3h30, les femmes en France travaillent gratuitement. Chaque année, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des actions symboliques sont organisées à 15h40, l'heure qui marque la différence de salaire avec les hommes, 26% de moins en moyenne. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
15h40, place de la République à Paris, vous y étiez. Rassemblement très hétéroclite.
Ouais, car entre les syndicats, les associations, les militants anticapitalistes et quelques gilets jaunes, difficile de s'y retrouver parmi la foule des manifestants, si ce n'est ce dénominateur commun, le violet, couleur du combat féministe. Michèle la porte en foulard, elle est retraitée et militante communiste.
Moi j'étais secrétaire de direction dans mon entreprise, le responsable du personnel était un homme, notre fonction était pratiquement identique et lui gagnait plus que moi. Je pense que les choses ont un petit peu évolué, mais je pense que dans beaucoup de postes, malheureusement, il n'y a pas de salaire égal à travail égal.
Des inégalités professionnelles qui subsistent et qui apparaissent dès les bancs de la fac. Selon Mélanie Luce, elle est la présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant.
Les DUT génie mécanique, par exemple, les filières d'ingénieurs, c'est des filières dans lesquelles parfois il y a moins de 15% de femmes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà des formations des plus jeunes âges, mais aussi une formation des personnels d'orientation, notamment des personnels dans les universités, pour qu'on puisse faire nos propres choix réellement sans schéma de domination derrière qui oriente nos choix.
Tout y voit les effets d'une société patriarcale, des rapports de domination qui s'expriment jusque dans le harcèlement de rue dont Aline est couramment victime.
Moi, ça fait des années que j'essaye de ne plus prendre le métro ou le bus parce que c'est pénible en fait et je fais du vélo du coup. Mais même en vélo, ça m'arrive de me faire interpeller ou harceler dans la rue. Il n'y a vraiment aucun espace où on peut être 100% safe quand on est une fille, ce qui est quand même assez triste.
Car au-delà des inégalités professionnelles, cette journée est aussi celle de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Depuis début janvier, en France, 30 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint.
Et aux États-Unis, merci Sébastien Sabiron, la sélection féminine de football annonce en ce 8 mars qu'elle poursuit la fédération pour discrimination salariale. Ce 8 mars, c'était aussi jour de remise du premier prix Simone Veil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, remis par Emmanuel Macron à la Camerounaise Aïssa Doumara, qui gère dans son pays depuis plus de 20 ans une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés, notamment des survivants de Boko Haram. Mobilisation aussi en Espagne pour la deuxième année consécutive. Le pays a un puissant mouvement féministe et les femmes sont en grève par milliers pour défendre leurs droits. Reportage à Madrid, Mathieu de Taillac.
Des centaines de femmes, jeunes pour la plupart, se sont donné rendez-vous devant le musée Reina Sofia avant que ne commence la manifestation tout près de là. L'ambiance est festive, les pancartes parfois humoristiques, mais la mobilisation répond à une inquiétude, notamment face au climat politique. Laïre, 29 ans, scénariste, a fait grève aujourd'hui.
C'est important d'être aujourd'hui à la manifestation pour revendiquer l'égalité, en particulier en ce moment, quand il y a un risque de revenir en arrière sur les droits des femmes. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui remettent en question des conquêtes que le féminisme avait gagnées il y a longtemps.
L'émergence du parti Vox a opposé pour la première fois un programme explicitement antiféministe au discours du 8 mars. L'extrême droite veut revenir notamment sur les lois contre les violences faites aux femmes, un fléau sur lequel l'Espagne a avancé davantage que d'autres, mais qui continue de concerner. Marie Carmen, septuagénaire, a fait de ses revendications un chotis, une chanson traditionnelle madrilène. Marie Carmen dénonce la violence machiste dont elle ne veut plus et chante pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Les jeunes mobilisés contre le réchauffement climatique scandaient cet après-midi à Paris « Détruisons le patriarcat, pas le climat ». Et puis c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France. La ministre de la Santé promet des filières de prise en charge de l'endométriose dans toutes les régions d'ici à la fin de l'année pour mieux aider à la diagnostiquer et plus tôt surtout, notamment avec des consultations pour les filles à partir de 11 ans.
Le journal Sébastien Paour à 19h06. Ismaël Emelien confirme qu'il a été entendu mi-janvier par la police des polices.
Un peu moins de 3 heures d'audition libre, précise le conseiller spécial d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Monde. L'inspection générale de la police nationale l'a interrogé sur l'affaire Benalla. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Sébastien.
Et notamment sur les images vidéo des violences du 1er mai.
Oui, alors petit retour en arrière. Le 18 juillet dernier, juste après les premières révélations du Monde sur ce qui allait devenir l'affaire Benalla, Ismaël Emelien, conseiller en communication de crise du président, décide d'organiser un contre-feu médiatique, explique-t-il aux enquêteurs, dans le but non pas de défendre M. Benalla, mais d'assurer la défense du président de la République qui était prise à partie dans cette crise, leur confie-t-il. Pour contrebalancer l'effet désastreux des images qui circulent sur l'intervention musclée d'Alexandre Benalla place de la Contrescarpe, Ismaël Emelien transmet d'autres images, celles où on voit le couple lancer des projectiles sur les forces de l'ordre un peu avant. Il les transmet à Pierre Le Texier, un salarié de la REM qui les mettra en ligne via le compte Twitter anonyme pro-Macron, French Politique. Ismaël Emelien affirme aux enquêteurs qu'il ne savait pas que ces images provenaient des caméras de surveillance policière, qu'il pensait qu'elles étaient extraites des réseaux sociaux ou de webcams touristiques. Et ce détail est important puisque dans ce volet de l'affaire Benalla, les 3 policiers soupçonnés d'avoir fourni la vidéo sont mis en examen pour détournement d'images et violation du secret professionnel. Si les juges ne croient pas aux explications d'Ismaël Emelien, il risque d'être à son tour poursuivi pour recel.
Jean-Philippe Deniaud, Ismaël Emelien quittera son poste à l'Élysée début avril au plus tard. Il disait jusqu'ici que ce serait à l'occasion de la sortie de son livre à la fin du mois. On comprend désormais qu'il y avait une autre raison. La majorité, toujours avec cette tribune de parlementaires et de militants En Marche, à lire dans le magazine Têtu, un peu plus de 100 personnes, dont 16 députés, qui demandent au parti majoritaire d'en finir avec l'homophobie et le sexisme. En ligne de mire, la députée Agnès Thil et ses déclarations anti-PMA notamment. Le député Guillaume Chiche fait partie des signataires. Il est au téléphone avec Élodie Forêt.
C'est d'abord pour dire qu'il n'y a pas de place pour des propos misogynes, homophobes, transphobes et autres. Vous mentionnez le nom d'une collègue députée qui est Agnès Thil, qui a complètement dérapé et vient nourrir des relents homophobes. Quand on parle de lobby LGBT à l'Assemblée nationale, quand on vient comparer des mères qui souhaiteraient avoir des enfants à des drogués, on vient encore attiser ce feu. Et je crois que le débat sur la bioéthique qui se prépare, notamment sur la PMA, mais dans une séquence où beaucoup plus largement les actes homophobes connaissent une véritable recrudescence, eh bien, on ne peut pas laisser passer.
Cette tribune, c'est donc pour dire au prochain dérapage, il faudra plus de sévérité.
Cette tribune, effectivement, elle fait figure de signal. Il faut savoir exclure. Effectivement, il y a un certain nombre de comportements, un certain nombre d'actes qui méritent l'exclusion.
Christophe Castaner s'adresse aux Gilets jaunes à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation. Quelles traces veulent-ils laisser? Celle de la revendication ou celle de la violence? Leur demande le ministre de l'Intérieur. La prison de Condé-sur-Sarthe encore bloquée aujourd'hui. 3e journée de mobilisation des surveillants après l'agression de 2 dealers mardi. Les Baumettes à Marseille ont aussi été touchées. Celle de Meaux également. Les gardiens réclament une revalorisation de leur statut pour attirer les candidats et améliorer la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Du côté de l'enquête à Condé, les 3 gardes à vue sont levés ce soir. L'assaillant, lui, est toujours hospitalisé.
Sébastien, pas de train ni de métro aujourd'hui à Alger.
Transport suspendu dans la capitale algérienne pour le 3e vendredi de mobilisation contre la 5e candidature Bouteflika à la présidentielle. Des milliers de manifestants, drapeaux algériens en main après la grande prière. Des manifestants qui ne veulent pas entendre le risque de chaos avancé par leur président impotent et qui n'ont pas peur de descendre dans la rue, comme Zineda qui a manifesté à Alger.
Aujourd'hui, je suis sortie toute seule parce que je devais chercher mes amis. Je n'avais aucune crainte. Personne ne me regardait. Personne ne m'a essayé de m'embêter. Pas du tout. Là, la femme est partout. Elle s'assoit sur les trottoirs, sur les escaliers, partout. Et elles sont là à chanter, à scander des slogans. Les gens sont très calmes. Ils sont là, très amicaux. Vraiment, il y a un sentiment d'amitié qui lie les hommes, les femmes, les enfants, les vieux. Au contraire, alors les personnes âgées, elles étaient vraiment bichonnées. Franchement, aujourd'hui, j'ai senti que j'étais avec tout ce peuple que je ne connaissais pas. Ce cinquième mandat fait que tous les Algériens, on se braque derrière ce cinquième mandat et qui nous lie en réalité. Et ça nous a liés. Vraiment, aujourd'hui, je suis fière d'être Algérienne.
Zineda dans les rues d'Alger avec Thibaut Cavaillès. Et pendant ce temps, l'un des opposants à Abdelaziz Bouteflika manifestait lui devant l'hôpital de Genève où il est soigné depuis bientôt 2 semaines. L'homme d'affaires Rachid Nekaz est même entré dans l'établissement Jérémy Lange avant d'être arrêté.
Rachid Nekaz s'est rendu aux hôpitaux universitaires de Genève en milieu de journée, accompagné par quelques dizaines de manifestants, des Algériens venus de Suisse et de France voisine. L'opposant déclaré à Abdelaziz Bouteflika est venu, pourra-t-il dit, savoir comment va le président algérien. Il serait hospitalisé depuis 10 jours maintenant, au 8e étage de l'hôpital cantonal de Genève. Mais Rachid Nekaz n'a pas eu le temps d'aller jusque-là. Il a été interpellé par la police juste après son entrée dans le bâtiment pour violation de domicile. L'hôpital lui avait en effet interdit l'accès. Il est depuis interrogé par un officier de police judiciaire qui peut décider ou non de le relâcher. Rachid Nekaz n'en est en tout cas pas à son premier coup d'essai. Le sulfureux homme d'affaires est un habitué des happenings médiatiques. La manifestation d'aujourd'hui pourrait en tout cas inciter les autorités algériennes à revoir leur stratégie et peut-être transférer le président Bouteflika dans un endroit plus sécurisé que l'hôpital public, si toutefois il y était encore. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Pas de cours ni de bureau aujourd'hui à Caracas et dans plusieurs provinces du Venezuela. Le gouvernement suspend la journée de travail à cause de la gigantesque panne d'électricité qui touche le pays depuis hier soir. Métro, feux de circulation, téléphone, internet et même la distribution d'eau avec des pompes électriques sont concernés. Le président en exercice, Nicolas Maduro, parle de sabotage. Dans le camp de Juan Guaido, on dénonce la corruption et le manque d'investissement. On ne compte plus le nombre de personnes passées au service de la communication de Donald Trump. Nouvelle démission aujourd'hui à Washington, celle de Bill Shine, ancien de Fox News. C'est le plus gros fonds souverain au monde et il va désormais moins s'intéresser à l'or noir. Le fonds souverain de Norvège qui pèse plus de 1000 milliards de dollars, dont 37 milliards dans les compagnies pétrolières. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
La motivation est financière et non environnementale, mais l'annonce est un signe de plus que les temps changent.
Oui, signe salué d'ailleurs par les ONG qui espèrent une onde de choc. Le fonds norvégien, c'est 1,4% de la capitalisation boursière mondiale. Ces placements sont donc scrutés à la loupe par tous les investisseurs de la planète et son désengagement même partiel de l'or noir est une alerte rouge, veulent croire les pro-climat, un coup porté aux énergies fossiles polluantes. Pour autant, cette décision n'engage la Norvège que sur le plan boursier. Elle met à l'abri son fonds souverain des soubresauts du marché, mais ce pays reste un acteur majeur de la filière. Le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, pétrole et gaz naturel représentent 20% des revenus de l'État et après 15 ans de déclin, la courbe de production d'or noir norvégien devrait rebondir cette année. Le gouvernement a en effet attribué en janvier 87 nouvelles licences d'exploitation, dont 14 concernent la mer de Barents à l'extrême nord. Autrement dit, la Norvège, loin de son image écolo, ouvre les confins polaires à la recherche d'hydrocarbures. 50 ans après la découverte des premiers gisements norvégiens, le pays avait alors le PIB de la Grèce. Il est aujourd'hui l'un des plus riches du monde.
Louise Baudet, ce désengagement devrait être adopté au Parlement à Oslo où le gouvernement est majoritaire. Comme un ultime appel au secours avant le vote de mardi au Parlement et à 10 jours de la date prévue du divorce, la première ministre britannique Theresa May envisage l'échec du Brexit et n'exclut pas un possible second référendum. Elle demande un effort supplémentaire à l'Union européenne pour que l'accord de divorce passe.
C'est le moment d'agir. Nous avons travaillé dur ensemble au cours des 2 dernières années pour aboutir à un accord. C'est un accord complet. Il a simplement besoin d'une dernière impulsion pour répondre aux dernières inquiétudes très spécifiques de notre Parlement. Alors allons-y, faisons le nécessaire pour que les députés soutiennent le texte mardi. Parce que si les députés rejettent cet accord, rien n'est certain. Ce sera un moment de crise.
Et Bruxelles lui a déjà répondu qu'il n'en était pas question. Un migrant retrouvé mort dans la remorque d'un camion ce matin sur le port de Calais. Le jeune homme d'une 20aine d'années tentait de rejoindre l'Angleterre. Le contrôle judiciaire de Carlos Ghosn pas assez strict pour le parquet de Tokyo. Les procureurs estiment qu'il n'empêche pas l'ancien patron de Renault de falsifier certaines preuves dans l'enquête pour malversation qu'il vise. L'un des avocats de Carlos Ghosn reconnaît de son côté que la tentative de sortie de prison de son client déguisé en ouvrier était un échec. Il pensait passer inaperçu en uniforme uniforme d'ouvrier, casquette et masque chirurgical sur le visage.
Et une question, Sébastien Paour, SpaceX fera-t-il bientôt le taxi entre la Terre et la Station Spatiale Internationale pour la NASA?
Eh bien peut-être bien, peut-être même dès cet été, comme son fondateur, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, le laisse entendre. Sa capsule est rentrée à la maison sans encombre et à l'heure prévue cet après-midi, amerrissage au large de la Floride, comme les capsules Apollo, après 6 jours amarrées à la Station Spatiale Internationale. Alors il n'y avait qu'un mannequin à bord, mais il n'empêche. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
La question n'est plus de savoir maintenant si ce prochain vol privé emportera des astronautes, mais quand?
En effet, l'optimisme de SpaceX qui annonce la date de juillet n'est pas confirmé par la NASA. En tout cas, les applaudissements nourris qui ont accueilli cet amérissage réussi ont de quoi surprendre. Étonnante en effet cette euphorie pour ceux qui, il y a 50 ans, en 1969 et jusqu'en 1972, ont vécu les rentrées dans l'atmosphère des capsules Apollo. Rien de bien neuf finalement dans ce qui s'est produit cet après-midi d'un point de vue technique, à ceci près que c'est une entreprise privée SpaceX, qui signe l'exploit et pas la NASA. Et SpaceX est devenu un sous-traitant de l'agence américaine. Et quand l'administrateur de cette agence, James Bridenstine, a pris la parole, c'est un discours très patriotique qu'il a tenu.
C'est vraiment un exploit incroyable pour toute l'Amérique. Et ce qui est vraiment unique maintenant, c'est que la NASA devient un client. Je sais qu'il reste beaucoup à faire. On a lancé une capsule inhabitée. Bien sûr, on doit encore faire la deuxième démonstration avec des astronautes dans la capsule. Et d'ici là, il faut qu'on teste le système d'éjection d'urgence. Mais toutes ces avancées vont nous conduire au jour où on enverra dans l'espace des astronautes américains avec des fusées américaines depuis le sol américain.
Car aujourd'hui, les Américains dépendent des Russes et de Soyouz pour gagner la Station Spatiale Internationale. SpaceX, s'il est le premier à tester sa capsule, n'est pas le seul fournisseur d'accès à l'espace. La NASA a aussi accordé un contrat à Boeing pour une capsule. Pour le patron de l'agence, ce vol marque le début d'un accès démocratisé à l'espace avec fusées réutilisables et guerre des prix. Reste donc que si SpaceX annonce son premier vol habité en juillet, les autorités américaines ne l'ont pas confirmé. Elles sont ultra exigeantes pour assurer la sécurité des astronautes, traumatisés par 2 accidents de navette. Ce vol, test de l'après-midi d'ailleurs, a 3 ans de retard sur le calendrier initial.
On suivra la suite avec vous. Merci Sophie Becherel. Direction la filature à Mulhouse pour finir la filature où vient d'être créée 40 degrés sous zéro. C'est un collage de 2 pièces de copie, 30 ans après la mort du dessinateur et dramaturge argentin. Le Moonstrom Théâtre s'empare de son univers, Stéphane Capron, et sème le chaos sur scène.
Le Moonstrom Théâtre a placé son spectacle sur une planète futuriste. On y retrouve les drag queens, chères à copie. Son théâtre n'a rien perdu de sa saveur dans la mise en scène de Louis Arène, même si on peut se demander si aujourd'hui un auteur aurait le courage d'écrire la même chose.
La légèreté aussi et l'humour étaient quand même acceptés d'une toute autre manière. Enfin, il y avait aussi moins les réseaux sociaux qui font tout de suite monter les polémiques, etc. Ou tout de suite on catalogue aussi. Comment nous le réapproprier, parce que forcément, toute la subversion de copie, elle n'a plus la même charge aujourd'hui. Lui, il choquait le bourgeois à un endroit particulier, avec l'imagerie de la folle. Nous, comment est-ce qu'on s'en réempare aujourd'hui? Parce que ça ne choque plus de la même façon aujourd'hui.
Ce qui fait la singularité du Moonstrom Théâtre, c'est le travail sur le masque. C'est comme une deuxième peau pour les comédiens, dont Lionel Ingelser, l'un des fondateurs de la compagnie.
On est toujours dans ces questionnements des monstres. Quel est le monstre en nous? Ces espèces de grandes caricatures pour après arriver à un effeuillage et arriver à enlever ses couches, toujours encore ses couches, pour revenir à l'essentiel, à ce que nous on a à l'intérieur et la chose la vérité finalement, quoi. Nous qui travaillons des figures et des monstres, d'arriver à quelque chose de centré et d'épuré, c'est un vrai challenge.
Christian Lacroix fait partie de cette aventure. Il a pu mettre son imagination débordante au service de ce spectacle en créant des costumes délirants pour ses personnages lunaires et extravagants.
La musique du spectacle signé Jean Thévenin, alias Jaune, qui fait partie de la playlist d'Inter. 40 degrés sous zéro du Moonstrom Théâtre, c'est ce soir encore à la filature de Mulhouse, puis en tournée dans les festivals, dont le Off d'Avignon cet été. Enfin, merci à Clément Berman, Michel Bézikian et Nicolas Cazot, qui étaient cette semaine aux manettes des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.
Y compris le téléphone sonne.
Et oui.
Voilà, Sébastien Paour, c'était le journal. Bon week-end, Sébastien. Les couleurs du ciel.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et voici Jean-Pierre Hameau de Météo France. Jean-Pierre, retour de la pluie par l'ouest en cette fin d'après-midi.
Oui Pierre, ça va d'ailleurs être le programme de ce week-end. Avec ce flux océanique, la porte reste ouverte et les perturbations vont se succéder. Une première perturbation touche actuellement l'ouest et le nord-ouest. Elle va traverser notre pays cette nuit et nous la retrouverons demain matin très affaiblie de l'Aquitaine aux frontières du nord-est. Les éclaircies reviendront en matinée dans un grand quart nord-ouest. Et puis d'après-midi, une nouvelle onde pluvieuse abordera l'ouest et le sud-ouest. Elle circulera rapidement vers les frontières de l'Est, avec des pluies plus marquées et du vent fort. Les régions méridionales seront épargnées, conserveront un bon ensoleillement.
Et pour dimanche, Jean-Pierre ?
Eh bien, prévoyez une large bande pluvieuse du sud-ouest aux frontières de l'Est, des averses sous un ciel chaotique à l'arrière et dans un grand quart nord-ouest. Le tout avec des rafales de vent jusqu'à 70 km/h, voire plus fort au nord de la Loire. Et pour ne pas changer, le soleil va résister du Languedoc-Roussillon à la région PACA.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci Jean-Pierre.